on va aborder un autre thème, le jugement moral. Le jugement moral. Quels sont les éléments constitutifs du jugement moral? Si je veux faire un jugement équilibré, voyez, si certains d'entre vous seront prêtres, à la fin du séminaire, ce qu'on demande à la personne, pour qu'elle soit idoine à l'ordination, c'est d'avoir un jugement équilibré. Donc là, je vais vous donner les conditions d'un jugement équilibré au plan éthique, au plan moral. Voilà. Mais ce qui est valable pour les séminaristes est valable en fait pour toute personne adulte. Hein? Alors pour vous, quelles sont les conditions cumulatives pour équilibrer son jugement? Ça vous est déjà arrivé de juger quelqu'un? Parfois ça arrive beaucoup plus vite qu'on le pense. Sauf qu'il faut parfois penser pour avoir un jugement équilibré. Alors comment penser un jugement équilibré pour qu'il soit équilibré? Équilibrant. Quels sont les éléments constitutifs d'un jugement? Vous avez le droit de juger. Alors, vous avez le droit de... Voilà. Alors, je fais une petite introduction. Le père Marie-Dominique Philippe, que certains d'entre vous connaissent, il dit, moi j'ai trouvé, le meilleur antidépresseur. Hein. Je résume des approches qu'il a évoquées. Le premier jugement qu'on a à avoir dans notre existence, c'est lequel?
La bienveillance.
Ouais. C'est d'abord soi-même. Le premier jugement, alors c'est pas le jugement au sens d'enfermer l'autre dans une catégorie. Le premier jugement, c'est-à-dire la première authentification. Le premier jugement qu'on a par rapport à soi-même, c'est j'existe. T'attends. Oui. Pourquoi j'existe? Pourquoi, dans l'instant présent, là je vous parle, non, je ne suis pas dans une autre galaxie, je suis ici maintenant en Suisse, à Fribourg, j'existe. Le premier jugement, c'est que je suis porté par l'existence. Voilà. Et donc il dit, le premier jugement qu'on doit avoir, c'est d'abord un jugement de reconnaissance de l'existence. J'existe. Et souvent, ceux qui sont un petit peu fatigués, dépressifs, etc., c'est qu'ils sont sortis de cette conscience d'eux-mêmes qu'ils existent, et ça, c'est un pur don gratuit, et ils se pensent ailleurs. Dans l'instant présent, le premier jugement que j'ai à faire, c'est « j'existe ». Je suis traversé par un acte d'être, par un dynamisme d'être, de vie, qui m'est donné, qui me maintient dans l'existence, et qui fait que si je lui tape dans la figure, ben, il va me dire, oui, j'existe vraiment. Bon. Voilà, l'existence. Donc, le premier jugement qu'on fait, en fait, dans le rapport au réel, c'est, je reconnais que ce qui est, voilà, le fameux ce qui est, vous l'avez déjà entendu, le ce qui est, hein? Ceci est, ceci existe. Donc, si à un moment, vous êtes fatigué, vous êtes déprimé, hein? Vous vous baladez dans la forêt et vous tapez contre les arbres, vous tapez vous-même, ça existe, il y a de l'existence. Voilà, je suis traversé par l'existence. Mais d'où ça vient cette existence? L'acte d'être. Métaphysique, vous en avez déjà fait un peu. Bon. Après, ça c'est le jugement métaphysique. Après, il y a le jugement éthique. C'est en fait reconnaître dans ce que l'autre fait. En quoi c'est bon ce qu'il fait? C'est bon ce qu'il fait ou c'est pas assez bon, c'est pas bon ce qu'il fait? Donc qu'est-ce qui va me permettre de poser un jugement équilibré? Quelles vont être les conditions cumulatives de ce jugement équilibré? Donc pour faire un jugement équilibré, de quoi j'ai besoin? Quelle va être ma boîte à outils? Sinon, vous ne jugez plus, hein?
Le conseil.
Hein?
Le conseil.
Alors, on va mettre ça à côté. Conseil.
La justice.
La justice. Alors, connaissance de quoi? Alors, on va mettre conseil, justice, connaissance. Alors, l'objectivité de quoi?
Dans le jugement, c'est de prendre, enfin, l'objectivité dans le sens où pas mettre d'affectivité dans le jugement, on peut ça. Enfin, travailler la raison.
Donc, tu prends un acte, prends-moi un exemple d'un acte mauvais que quelqu'un a fait. Ouais. Tu vois, moi tout à l'heure, à l'entrecours, j'ai pris le stylo du frère, j'ai fait ça, quand j'étais à l'école, parfois je l'ai mis dans ma trousse, parce que j'avais la tête en l'air, etc. Ouais. Donc il l'a pris. Donc, voler quelque chose, par exemple. Voler quelque chose, c'est toujours mauvais. Parce que en soi, c'est mauvais. Voilà. En soi. L'acte en lui-même. Voilà. Je pose un jugement parce que j'arrive à objectiver l'acte en lui-même, à connaître l'acte en lui-même. Voilà. Je connais l'acte en lui-même. Est-ce que c'est suffisant? Pour avoir le jugement équilibré, qu'est-ce qu'il faudra en plus? L'expérience de quoi? Le? Il y a quelqu'un qui a dit un mot qui était juste. Hein? Alors la prudence, c'est sûr que ce sera pour la manière de juger. Mais en termes, quelles sont les conditions cumulatives ou quels sont les éléments constitutifs du jugement? Ici, on est arrivé à un élément, en fait, c'est l'objet de l'acte. C'est le contenu de l'acte. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, le gars, dans sa voiture, il a foncé et il a écrasé la grand-mère. Il a tué la personne. Tuer, c'est toujours mauvais. Objectivement, son acte, c'est d'avoir tué. Bon, voilà. Alors, après, voilà, on va essayer d'évaluer. Donc, les circonstances. Donc, il a tué la grand-mère. Et il était bourré. Il a fait un bon petit cocktail de bière et de vodka. Et il s'est pris un maître. Vous connaissez ça, non? Non? Un maître. Et après, il a pris sa voiture, il est rentré, etc. Donc, circonstances aggravantes. C'est-à-dire le contexte dans lequel... Le contexte dans lequel se fait... La faute va aggraver la faute ou va la diminuer. Hein? On va prendre un autre exemple. Une mère célibataire. Un célibataire, oui. Une famille monoparentale. J'aime pas cette expression. Une femme, 15 du mois, elle n'a plus d'argent. Elle va au Leclerc du coin. Bon. Son petit garçon a un petit cartable. Et bon, elle va acheter un morceau de pain, elle met la viande dans le cartable de l'enfant, passe à la caisse, ça se passe bien, etc. Puis vous avez un grand baraquet à la sortie qui dit le petit, là. Vous allez voir. Ah non, mais c'est son cartable, petit, voilà. On ouvre et puis on découvre. Voilà. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Le juge, il va dire, madame, vous avez volé. C'est toujours mauvais. Mais votre acte de vol rencontre quel autre droit? Le droit de vivre. Le droit de vivre, c'est supérieur. Le droit de vivre est en concurrence avec le vol. Que le vol, c'est un droit naturel aussi. Hein. C'est une atteinte à un droit naturel, la propriété. Donc, c'est deux droits qui se rencontrent. Donc, en gros, en pratique, ce qui va se faire, c'est que la personne va être condamnée à 1 euro de dommage intérêt. Voilà. Je dirais, sous peine de ne pas recommencer. Si elle recommence, là, elle fera la double peine. La nouvelle et la précédente. C'est comme ça. Hein. Voilà. Mais le juge donc a pris en compte les circonstances dans lesquelles vivait la personne. Vous voyez, ça nous évite quoi déjà d'être comme ça? Ça nous évite d'être légaliste, moraliste, etc. Donc, l'importance quand on juge, on a envie d'avoir un point de vue clair et précis sur une situation, sur quelqu'un, c'est de connaître les circonstances qui ont amené la personne à prendre cette décision. Tiens, qu'est-ce qui a pu la pousser à prendre cette décision-là? Est-ce qu'elle a été orientée? Est-ce qu'elle a été influencée? Est-ce que... Oui. C'est tout notre rapport à la grande pauvreté aujourd'hui. Comment vous vous situez par rapport à quelqu'un qui fait la manche? Est-ce que vous le regardez de haut? N'hésitez pas. Moi, j'ai fait une super expérience quand j'avais votre âge. Je suis parti 3 jours mendier. C'est super. Bien sûr, ça vous fait atterrir. Pendant 3 jours, vous mendiez à Paris, puis aussi dans le sud de la France. Bon. Mais bien sûr que vous découvrez des choses. Regardez le monde par en bas. Vous dormez sous les ponts, vous mendiez. Et je me rappelle l'image emblématique, c'était, j'étais dans le quartier latin, et j'étais assis à côté d'un clochard, on mendiait, et puis il y avait une super jaguar qui arrive. Elle se gare juste devant nous. À ce moment-là, côté trottoir, évidemment, c'est la porte de la dame qui s'ouvre. Elle sort avec des jambes, avec des bas noirs, magnifiques. C'est vraiment le film. Nous on est, vous voyez, on est à 1 mètre, à 50 cm du sol, donc on voit le. Voilà. Elle sort en engueulant son, je ne sais pas si c'était son mari, son copain, etc. Et lui, il claque la porte. Il se retrouve devant nous. Et il passe devant nous. Ils ne nous ont pas vu. Et après, on a rigolé avec le clochard, on a fait la relecture, etc. Mais c'est, comme le disait l'abbé Wrzeszynski. Vous connaissez l'abbé Wrzeszynski? Le fondateur de la TD Quart-Monde. Vous connaissez la TD Quart-Monde? Les Français connaissent plus. La TD Quart-Monde, c'est un très grand mouvement français fondé par un prêtre qui a fait le constat sociologique et historique que depuis des générations, naît en marge de la société des gens qui naissent dans la misère et qui se reproduisent dans la misère en Occident. En gros, 2 millions de personnes, etc., qui vivent dans les bois. Moi, j'ai travaillé avec ce mouvement pendant 2 ans. On allait dans les bois, chercher les plus pauvres, sous les ponts, dans les cabanes, et les bidonvilles éclatés. Mais en France, les bidonvilles sont interdits, ils sont éclatés. Soit ils sont dans des cités d'urgence, ou soit ils sont dans les forêts, dans les cabanes. Et on allait voir les familles, etc. Bon. Ben, je vous assure que c'est très intéressant de voir ce que vivent ces gens-là. Voilà. N'hésitez pas à peser le poids des circonstances sur le comportement. Mais une autre expérience faite, j'étais parti au Liban, j'avais 20 ans, vivre dans un bidonville proche de Beyrouth. Et la règle du jeu, c'était d'arriver sans rien. Sans rien. Rien du tout. Pour après rentrer dans les familles et faire l'expérience d'être invité par les familles et de vivre de l'intérieur avec leur confiance parce qu'ils m'ont invité librement. Pendant 3 jours, ça n'a pas très bien marché et après, j'ai réussi à rentrer. C'est les enfants qui m'ont fait rentrer. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu es là? Viens, viens manger. Eh bien, je vous assure qu'en vivant dans la grande misère pendant pas longtemps, c'est vrai, hein, 15 jours, un mois, vous voyez le poids du conditionnement social sur le comportement éthique. 8 personnes qui dorment dans la même pièce, avec la promiscuité que ça peut avoir, la relation entre les époux, la relation entre père et la fille, etc. Vous voyez, c'est pas très sain. Dans la durée, c'est pas très sain, etc. Voilà. Que les conditions sociales ont une influence très forte sur le comportement. Et aujourd'hui, on a très bien pris conscience de ça dans l'équilibre d'un jugement. Voilà. Et c'est bien d'en faire l'expérience. Voilà. Et on comprend en quoi l'émergence du mouvement socialiste à la fin du 19e et 20e, sur le fond d'une réflexion sociologique, du déterminisme sociologique sur le comportement. C'est vrai, il y a de l'influence d'une certaine conditionnement social sur le comportement éthique. Mais on est toujours libre au cœur même de ces conditionnements. Mais il y a de l'influence. Donc on prend en compte les influences. C'est sûr que quelqu'un, une femme très riche qui va voler dans un magasin, sera condamnée très différemment que quelqu'un de très pauvre. Ça, le résultat de la condamnation, ce ne sera pas la même chose. Parce qu'on va s'interroger sur les conditions sociales, ce qui a poussé. Alors, ça c'était pour les circonstances. Qu'est-ce qui manque en haut ?